Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Il est 9h41, vous êtes sur France Inter et c'est l'instant M qui recommence.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous nous spoiler?
Spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
C'est une histoire sans moment crucial. Il n'y a ni chute, ni apogée, écrit Lou Bureau, même pas 30 ans. Son petit livre rouge présente pourtant un début, un milieu, une fin. Récit d'une incarcération dans une prison de haute sécurité en Turquie. Le jeune reporter est arrêté un jour de juillet 2017 et accusé de terrorisme après un simulacre de procès. Voilà pour le début. En cellule, il raconte le temps long, la peur, l'isolement, les humiliations. Voici pour le milieu. Il sera finalement libéré grâce à la mobilisation de l'État français. Ça, c'est la fin. 8 semaines en apnée, une asphyxie psychologique pure et dure et 200 pages pour dire la dérive bureaucratique, nationaliste et autoritaire de la Turquie.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Alors attention, ce que vous allez entendre n'est pas un reportage sur le milieu carcéral turc, mais la bande-son d'un film de zombies. Et franchement, Lou Bureau, on se demande comment un film de zombies peut s'avérer réconfortant quand on est en tôle.
Oui, c'est vrai que ça m'avait beaucoup surpris de voir ce film 28 jours plus tard en prison.
C'est un film de Danny Boyle, c'est ça?
Oui, et puis en plus, c'est un film qui était projeté sur le canal interne de la prison, donc vraiment pas sur les chaînes d'infos en fait.
Ouais, mais vous lui consacrez un paragraphe, ça vous rend heureux de revoir ce film au fin fond de la Turquie, mais heureux. Voilà, alors en rentrant à Paris lors de votre libération il y a 2 ans, Lou Bureau, vous nous aviez accordé votre premier témoignage, donc vous êtes de retour dans ce studio. Depuis, vous avez écrit Chronique d'un prisonnier, 52 jours dans une prison turque, et c'est publié aux éditions des Équateurs. On va préciser tout de suite, Lou, que ce n'est pas un travail d'écriture réalisé après coup, mais ce sont des pages brutes écrites en prison. Et vous le dites tout de suite, cela ne m'a jamais soulagé d'écrire. Jamais ?
Non, ça m'a jamais soulagé parce que plus j'écrivais, plus je prenais conscience de la réalité dans laquelle j'étais plongé. Et plus je comprenais en fait que j'étais réellement un prisonnier. En fait, le fait de le mettre à l'écrit m'en
faisait rendre compte. Ouais, c'est ça. On va raconter brièvement ce qui vous est arrivé. C'est votre compte Facebook qui vous a perdu lors d'un voyage en Turquie. Une image de vous en compagnie de combattants syriens. En fait, vous les aviez suivis dans le cadre d'un reportage en 2013.
La ligne de front, la voilà. À quelques pas à droite, la frontière turque. Un peu plus loin, en face, les positions djihadistes. Nous sommes à Serekanye. La ville a été occupée pendant des mois par Al-Qaïda. Les forces kurdes viennent de la reprendre. Elles se battent désormais pour libérer les villages des alentours.
Vous aviez une petite voix toute jeune, mais vous êtes encore très jeune. Oui. C'était un reportage pour TV5 Monde, un gardien en prison vous fera passer un petit mot sur lequel est écrit « Rencontrer les combattants IPG », comment vous prononcez-vous ?
YPG. Hein.
Voilà, « Dépasse nos limites journalistiques ».
Oui, bah, je trouve que c'est révélateur un peu de l'état de la presse en Turquie aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, le pouvoir turc considère qu'un journaliste doit prendre parti pour la nation turque et il n'y a plus de partialité. En fait, soit on est pour l'état turc, soit on est contre l'état turc.
C'est ça. Mmh. Sauf que à l'époque où vous suivez ces combattants, ils ne sont même pas considérés comme organisation terroriste. Vraiment, le moment de votre arrestation, cette garde à vue qui va durer 6 jours, 6 nuits, c'est ce temps très 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 long sans sommeil, ces vêtements qui puent, ces chaussettes crasseuses, cette cellule de 6 mètres carrés, on sent une sorte de piège qui se referme autour de vous et psychologiquement, ce sont des pages glaçantes.
Ouais, et en même temps, la garde à vue, elle a été très dure d'un point de vue physique aussi, parce que j'étais très peu nourri, je dormais peu, j'avais pas accès, il y avait pas de lumière du jour, donc je savais pas quelle heure on était en fait. Et en même temps, je me rendais compte que j'étais qu'au stade de la garde à vue, que j'étais pas passé devant un tribunal, et je me disais que je pouvais être relâché d'un moment à l'autre. Mm-hmm. Et ça, cette idée de pouvoir être relâché d'un moment à l'autre, elle a fui au fur et à mesure de ma détention, parce que j'y croyais de moins en moins.
En fait, vous venez d'arriver en prison. Et là, vous comprenez que la juge vous a menti, qu'en fait, elle vous a déclaré terroriste, ce que vous ignoriez. Et là, vous comprenez que vous risquez 25 ans de prison. Et vous le dites, vous êtes abasourdi.
Ouais, c'est quelque chose auquel j'ai jamais cru, en fait. Je me suis jamais dit, à un moment donné, je l'imaginais, j'y pensais tout le temps, mais j'ai pas voulu, je voulais pas y croire. Je voulais pas y croire, me dire que j'allais passer les 20 prochaines années dans cette prison, parce que le doute m'a ravagé, en fait. Les jours passant, j'arrivais pas à imaginer que je pouvais passer autant de temps en prison, et je pense que...
Un jour, votre avocat vous dit, allez, à mon avis, c'est 7 ans. 7 ans. Ça passe vite, 7 ans. T'as quel âge, Lou?
Ouais, je pense qu'il voulait me réconforter.
Parce ces mots-là, ça vous a écorché vif.
Ouais, parce que peut-être que 7 ans dans les autres accusés qu'il a dû défendre, peut-être qu'il y avait des peines qui étaient plus lourdes. Je sais pas. En tout cas, il a considéré que 7 ans c'était quelque chose qui devait me réconforter, mais ça a eu un peu l'effet contraire.
Alors évidemment, vous êtes un jeune homme français, vous avez 28 ans. Pour vous, la prison, c'est du cinéma. C'est Midnight Express, le film d'Alan Parker, l'enfer des geôles turcs. C'est Un prophète de Jacques Audiard. En fait, vous avez peur d'être battu, vous avez peur d'être violé, et ça, la peur du viol, c'est quelque chose qui revient souvent dans votre récit. Vous fabriquez même une espèce d'arme de fortune que vous cachez sous votre matelas.
Ouais, parce que j'étais tellement démuni que je m'étais dit essaye de te prémunir face à toutes les situations qui pourraient arriver. Et quand j'ai eu, on m'a donné un rasoir assez rapidement. J'ai jamais vraiment compris pourquoi ils m'ont donné ce rasoir. Mais en tout cas, j'ai eu un rasoir, j'ai eu un manche de balai et je me suis tout de suite fabriqué une arme que j'ai cachée en dessous de mon lit. Au cas où, voilà, toutes ces idées que j'avais de la prison surgissent en fait et se concrétisent dans mon quotidien en prison.
Il y a des personnages récurrents dans votre histoire, Lou Bureau, ce sont les gardiens de cette prison. Alors ça commence par une sorte de monstre, tout droit sorti d'un conte pour enfants. C'est un géant, il mesure 2 mètres, il est très laid, il a une énorme protubérance de bossu et il vous hurle dessus. Et puis ensuite, ça va alterner entre des gardiens réconfortants et des gardiens franchement sadiques, on peut dire ça, franchement sadiques.
Ah oui, complètement, parce que... Il y a eu des épisodes d'humiliation, de violence de la part de gardiens qui, à mon avis, n'étaient pas instrumentalisés. Je pense que c'est vraiment une haine que me portaient les gardiens, que me portaient certains gardiens qui venaient parfois tout seuls, en fait, dans ma cellule, voilà, m'humilier, me cracher dessus. Et après, il y a eu ceux effectivement qui m'ont aidé. Donc, tout n'est pas noir ou blanc. Il y a eu.
Sachant que vous ne parlez pas turc.
Je parle pas turc. Je savais pas où j'étais. Je suis arrivé de nuit dans la prison. J'ai perdu tous mes repères spatiaux. J'ai perdu pied très très rapidement au final à cause de tout ça.
D'ailleurs, un consul français vous suppliera d'apprendre le turc et vous suppliera d'avoir une conversation même, on va dire élémentaire, avec vos gardiens, parce que il vous dit, vous n'imaginez pas à quel point certains prisonniers deviennent fous à force de ne pas parler.
Oui, parce qu'en plus je suis à l'isolement total, donc je vois personne. Je passe mon temps tout seul, je dépéris en fait, je rentre dans une léthargie totale. Et le consul le sait très bien, il me demande d'apprendre le turc et de converser avec mes gardiens, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout que moi, j'avais développé une espèce de repoussoir à apprendre cette langue, qui pourtant, la Turquie, j'adore ce pays, mais je me disais à ce moment-là, pourquoi moi j'apprendrais le turc, c'est quand même eux qui me mettent en prison, et c'est à cause d'eux que je suis là, mais ce qui au final est un repoussoir un peu bête et abject, parce que la Turquie est un très beau pays.
Il y a quelques lignes très drôles. Vous finissez par obtenir des livres auxquels on ne s'attend pas forcément. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu, cher Lou, de la biographie de Louis de Funès écrite par ses fils? Ça, déjà, on ne s'imagine pas que c'est ça que vous avez lu et relu pendant 8 semaines en Turquie, mais surtout d'un ouvrage sur le Tibet coécrit par Gilbert Collard.
Ouais, coécrit par Gilbert Collard, mais après qui était intéressant parce que bon, on n'est pas dans le registre dans lequel on a l'habitude d'entendre Gilbert Collard, mais voilà, un ouvrage sur le Tibet qui explique en fait. La situation dans laquelle sont plongés les Tibétains depuis déjà des dizaines d'années.
Vous l'avez conservé, ce livre? Vous l'avez rapporté en France?
Je l'ai conservé, mais je les ai mis de côté un peu. Je me suis pas replongé dedans.
J'imagine. Ouais. Vous avez passé des heures et des heures, des journées et des journées devant la télévision turque. En fait, ce petit livre pourrait même être une chronique des programmes télévisés en Turquie. Vous avez entendu chaque jour la voix du président Erdogan. Vous avez vu chaque jour le visage du président Erdogan surgir sur un écran.
Neymiş? O PKK değilmiş. Bize göre terör örgütü PKK'ymış. Ey Batı, SDG dediğiniz Suriye demokratik güçleri bu terör örgütünün
aynısı. Donc la télévision turque, c'est d'abord le président Erdogan. Il y a aussi un constat effarant de la dérive autoritaire et nationaliste turque. Ça commence quand, lorsque vous arrivez en prison, par un directeur de prison qui vous fait mettre à genoux devant le bureau, devant le drapeau
oui.
rouge.
À genoux, et je comprends pas. J'ai cette distanciation tout de suite de me dire en fait qu'est-ce qui est en train de se passer, parce que je connais la Turquie, je connais les dérives qu'il peut y avoir en Turquie, mais je trouvais ça complètement invraisemblable qu'on me demande de me mettre à genoux devant un drapeau. C'est pour moi, c'était quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis le Moyen Âge en fait,
ouais.
de se mettre. C'était pas du tout. Voilà, ça me paraissait complètement fou et je me suis, pendant, à ce moment-là, je me suis même vu moi-même, en fait, en train de m'agenouiller tellement la scène me paraissait invraisemblable.
Mmh, mmh. Comme une forme de distanciation ouais. de soi-même. Mmh. Et vous dites que Erdogan devient au fur et à mesure de ses apparitions télévisées comme un être biologiquement supérieur. En fait, vous avez l'impression que c'est votre geôlier, qu'il vous parle en direct, qu'il tire lui-même les ficelles.
Ouais, c'était quelque chose de très fort.
Ouais.
Quand je voyais Erdogan, je voyais mon geôlier. Je savais que c'était lui qui pouvait me libérer du jour au lendemain ou pouvait décider de continuer mon incarcération. Et vu que j'avais très peu d'informations, si ce n'est presque aucune, sur la situation extérieure, en fait, j'en étais arrivé à me dire, en fait, mon sort, ma vie, mon futur est dans les mains de cette personne. Et c'est quelque chose de très dur à assimiler, en fait, que son propre destin n'est plus entre nos propres mains.
Ouais, bien sûr. Mmh. On va entendre votre père, il est interviewé à ce moment-là, c'est au cours de votre incarcération. Lui, il se bat pour vous en France, sur TV5 Monde.
Je trouvais que mon fils, sur le coup de téléphone que j'avais eu, était en train de baisser, en quelque sorte. C'est-à-dire, je trouvais que le ton n'était pas reconnaissable. Et même s'il ne s'appesantissait pas sur son sort, il s'inquiétait plutôt d'une autre. Eh bien, moi, je trouvais que il avait sérieusement besoin de signes positifs.
Alors, vous dites vous-même, je l'ai dit en introduction de votre récit, Lou Bureau, qu'il n'a ni chute ni apogée. Il a une chute, puisque sinon vous ne seriez pas en face de moi, cher ami. Il y a une apogée. Il y a ces pages quand même où on sent les crises d'angoisse monter la nuit. On sent que vous pensez au suicide. On sent que vous fumez jusqu'à avoir les dents noires et la peau sèche. Il y a cette expérience du temps et de la solitude. Il y a même un moment où vous dites « je me suis surpris à entendre ma voix ».
Ouais. Ça a été.
Il y a un moment où vous plongez.
Ouais, oui, je plonge parce que j'en peux plus.
Mmh.
Et l'absence de repères spatio-temporels, l'absence de tout, en fait, je supporte plus ma vie en prison et je sais plus quoi faire et je passe mes journées dans une léthargie totale, c'est-à-dire que je peux fixer le plafond pendant 3 heures sans qu'il se passe absolument rien et je fume beaucoup parce que la clope est devenue un repère presque temporel. Je me dis, je vais peut-être en fumer une dans 10 minutes et puis j'en fumerai une dans 20 minutes. Et il se passe tellement peu de choses que j'essaye de rythmer mes journées avec rien, en fait. Et la pression, le peu d'informations, le comportement des gardiens, tout fait qu'à un moment donné, je perds pied, effectivement.
Ouais, ouais. D'ailleurs, vous avez tenté une grève de la faim. Il y a même des phrases assez comiques parce que vous savez pas très bien comment on fait une grève de la faim. Est-ce qu'on a le droit de boire? Est-ce qu'on n'a pas le droit de boire? Si on boit un coca, est-ce que c'est vraiment une grève de la faim ou pas? C'est vrai qu'on s'est jamais posé ces questions-là. Est-ce que ce petit livre, Lou Bureau, il dessine aussi en filigrane la situation au fond extrêmement fragile, extrêmement isolé du jeune journaliste freelance que vous étiez? Parce que vous l'expliquez, vous êtes parti au Caire très tôt après votre licence de journalisme à l'IUT de Lannion, couvrir la révolution égyptienne. Et puis là-bas, vous avez compris que si vous continuez d'aller dans des pays où vont 200 des meilleurs journalistes du monde, eh bien, vous n'arriverez jamais à percer. Vous continuerez à travailler à perte. Tous les sujets seront couverts.
Mmh.
Donc, en fait, pour pouvoir bouffer, vous commencez à développer un journalisme beaucoup plus risqué, c'est-à-dire là, aller là où personne ne va.
Aller là où personne ne va, et puis en même temps, c'était aussi trouver une forme de légitimité à pouvoir raconter ces histoires-là qui se passent dans des contextes très difficiles. C'est pour les personnes, en fait, que je rejoignais sur ces terrains-là. J'avais envie de sentir que j'avais une légitimité à être là. Et donc, c'est d'un point de vue professionnel, effectivement, aller là où personne ne va, mais aussi trouver cette légitimité.
Sauf que aller là où personne ne va, c'est se retrouver à vivre ce que vous avez vécu, c'est-à-dire loin du pool, loin des confrères, loin des journaux qui vous protègent et qui vous surveillent.
Ouais. Après, je pense que ce qui m'est arrivé aurait pu arriver en fait à n'importe qui, n'importe quel pigiste en fait, freelance,
n'importe quel
même journaliste. Je pense qu'aurait pu être emprisonné en Turquie à ce moment-là. Je pense que c'est vraiment en fait, c'est ça aussi qui a été dur pendant que j'étais pendant ma détention, c'est que je pense que mon incarcération est le fruit du hasard total et le fruit de la malchance. C'est tombé sur moi à ce moment-là, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre.
Et alors ça tombe sur vous, vous êtes au fin fond de la Turquie, on est en plein milieu de l'été, il n'y a pas de juge disponible et vous allez être jugé pour terrorisme par une juge aux affaires familiales.
Exactement.
C'est ça, c'est cette espèce de concours de circonstances kafkaïen.
Oui, et puis en fait j'ai déjà été jugé parce qu'en fait bon, comme je le raconte dans le livre, j'ai été libéré à un moment donné après une journée d'interrogatoire et après je suis réincarcéré. C'est-à-dire qu'un juge demande l'admiration et un autre demande mon incarcération. Donc en fait, je comprends tout de suite qu'il y a des conflits d'intérêts et je comprends tout de suite en fait que mon cas en fait a été pris en main dans les sphères du pouvoir plus élevé parce que c'est quelque chose qui est impossible en fait aller contre la décision d'un juge. Et je pense que ça aurait pu être un autre journaliste sur d'autres problématiques. Je pense qu'ils ont essayé de profiter de moi d'une certaine manière et que les actes d'accusation contre moi étaient tellement ridicules. C'est ce que je raconte aussi dans le bouquin. Ouais. Il y avait des choses complètement dingues.
Aberrantes.
Vraiment qui n'ont aucun sens. On allait jusqu'à essayer de trouver une signification dans la place que j'avais sur la photo. Si j'étais devant, sur les côtés, etc. Mmh. Ça voulait dire que des choses différentes. Et donc, je pense qu'il y a eu une volonté du pouvoir turc à ce moment-là d'arrêter un journaliste pour plusieurs raisons. Peut-être d'abord aussi, en premier, pour faire peur, pour dire voilà, on refuse que les journalistes viennent dans cette zone-là couvrir des choses qui pourraient être compromettantes pour le pouvoir turc, et aussi et peut-être pour obtenir des concessions de l'État français. C'est bête à dire, mais c'est bête et ça fait peur à dire, mais c'est peut-être la réalité.
Merci beaucoup, Lou Bureau, pour ce deuxième passage dans l'Instant
Merci
M. Deux ans après, chronique d'un prisonnier, 52 jours dans une prison turque, et donc sorti aux éditions des Équateurs. Voilà. Et ça se lit mieux, à mon avis, que les ouvrages sur le Tibet de Gilbert Collard.